Panorama Économique.
Bienvenue à Panorama Économique sur Radio Okapi. Les titres pour commencer. La Banque Centrale du Congo a lancé lundi son programme dit la Centrale des Risques. Elle permettra de gérer en temps réel toutes les informations des banques et institutions de microfinance. Le ministre de Budget a organisé un atelier pour trouver de voies et moyens en vue de lutter contre la fuite de recettes de l'État. Les assises de 3 jours se clôturent aujourd'hui à Kinshasa. Le délai de création d'entreprise réduit à seulement 3 jours en RDC. Le guichet unique de création d'entreprise a pris ses fonctions cette semaine à Kinshasa. L'actualité de la semaine est commentée par Deo Katulanya. Il est président du conseil d'administration de la Mutuelle d'Épargne et de Crédit du Congo. Monsieur Deo, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour.
Et devant ce micro, Daniel Tambinzoni vous souhaite la bienvenue à Panorama Économique.
Panorama Économique, le dossier.
La Banque Centrale du Congo a ajouté un nouveau programme dans son système informatique. Il s'agit de la Centrale de Risque. Ce programme consistera à collecter et à gérer en temps réel des informations sur les crédits octroyés par les banques et institutions de microfinance à leurs clients. L'identité du bénéficiaire et la taille du crédit reçu, son niveau d'endettement à l'échelle nationale sont les informations de première nécessité pour la Centrale de Risque. L'objectif poursuivi par la Banque Centrale est d'éviter aux demandeurs de crédit le surendettement et cela permettra aux banques d'agir avec prudence. Voilà, je vous le disais, notre invité s'appelle Deo Katulanya. Il est le président du conseil d'administration de la Mutuelle d'Épargne et de Crédit du Congo, la Mecrico. Monsieur Deo, encore une fois, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous avez suivi certainement avec nous cette actualité de la semaine, une centrale de risque pour gérer les informations des banques et des institutions financières. Et je dis même que vous êtes, comme je le disais, vous êtes le président de la Mecrico, c'est-à-dire c'est quelque chose, un outil de travail pour vous.
Oui, tout à fait. Je suis aussi président de l'association des coopératives d'épargne et de crédit du Congo. À ce titre-là, je suis très intéressé et j'ai même participé au lancement. Et donc, la centrale des risques est un outil extrêmement important pour le pays, en ce sens que sur l'ensemble de l'économie, il va permettre d'améliorer les climats des affaires. Comment ? En permettant à toutes les institutions financières que vous avez citées, les banques, les institutions de microfinance, les coopératives, les paniers de crédit, de se rassurer sur la qualité du membre qui va prendre un crédit chez cette institution financière. Et cela permet alors à ce que cette institution puisse donner le crédit en connaissance des causes. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la cavalerie financière, c'est-à-dire les gens qui vont prendre des crédits dans plusieurs institutions et finalement mettent tous les secteurs en danger. Et ici, la centrale des risques va nous permettre à chaque institution de se rassurer sur la qualité de celui qui prend le crédit dans l'institution. Et donc c'est une bonne chose.
Ouais, c'est bon outil.
C'est un bon outil pour le pays. C'est un bon outil pour les institutions financières, n'est-ce pas? Parce qu'elles vont donner des crédits de qualité. C'est un bon outil pour les membres eux-mêmes qui vont apprendre finalement à ne pas mentir sur leur situation d'endettement. Et donc, ça peut jouer contre le surendettement.
Monsieur Deo, il a été demandé à toutes les institutions de microfinance d'aller s'inscrire auprès de la Banque Centrale pour que leurs informations soient gérées dans... Vous êtes président de Mecrico, de PCA de Mecrico, et vous avez dit président de la Mutuelle...
De la PROSEC.
De la PROSEC, voilà. C'est déjà fait de votre côté?
Ça va se faire. Donc, c'est progressivement que cela va se faire. Je pense qu'il y a déjà les banques qui sont dedans. Il y a quelques institutions de microfinance qui sont dedans. Les coopératives vont venir tout doucement parce que nous avons quand même posé un certain nombre
de préalables,
notamment toutes les petites coopératives, toutes les petites institutions de microfinance qui n'ont même pas encore un système automatisé d'information.
Justement, se poser la question. Voilà.
Donc, moi, je pense que même la Banque Centrale, elle sait que tout le monde va y aller, mais progressivement. Ça ne peut pas se faire en un jour, du jour au lendemain. Mais ceux qui n'y vont pas, on va les encourager, on va les former, on va les appuyer. Et donc, il y a plusieurs réflexions pour appuyer ceux qui ne sont pas encore dedans.
Si nous nous sommes intéressés, si à vous, M. Deo Katulanya, cette semaine, c'est par rapport à la campagne sur l'épargne que vous avez lancée. Vous avez lancé une campagne pour 3 mois. Profitons-en de cette l'actu de la semaine avec cette centrale de risque justement pour essayer de parler un peu de la campagne sur l'épargne. Comment d'où est venue l'idée de lancer cette campagne sur l'épargne?
Oui, la campagne sur l'épargne se comprend très bien parce qu'en fait, on peut parler du crédit lorsqu'on parle de la centrale des risques, mais le crédit, c'est toute une autre forme tout simplement de l'épargne, n'est-ce pas? C'est l'épargne forcée. L'épargne, pour nous, c'est un montant d'argent mis en sécurité dans un compte, n'est-ce pas? Et pour lequel on va disposer de la traçabilité. Et donc ici, cet argent peut être mis dans un compte parce qu'on a fait un certain nombre de sacrifices, on a sacrifié quelques dépenses et on se retrouve avec un montant qui est mis de côté. Donc nous voulons sensibiliser la population quinoise pour qu'elle puisse épargner. Parce que sans épargne, il est impossible d'investir, n'est-ce pas? Que ce soit les pays, que ce soit les individus, tout le monde doit épargner. Et donc, nous voulons sensibiliser les gens en leur montrant que on peut aussi gagner de l'argent en épargnant. Et chez nous, par exemple, lorsque quelqu'un apporte de l'argent, signe un contrat, il peut déjà gagner 12%, 12% l'an sur le montant qui a été déposé dans le compte. Et donc, mais il faut savoir aussi quand même que l'épargne est la condition pour avoir accès au crédit. Et donc, lorsque on a bien épargné, eh bien, on crée une confiance avec l'institution financière.
On crée en même temps une garantie.
On crée une confiance qui devient une garantie finalement. Et donc, l'institution vous fait confiance et vous donne un crédit. Lorsque vous payez convenablement ces crédits, n'est-ce pas? Vous créez encore une deuxième confiance et ça fait que finalement vous allez continuer à avoir des crédits.
Monsieur Deo, nous ne voulons pas remuer les couteaux dans la plaie. Oui. Parce qu'on sait que bon nombre de Congolais étaient un peu déçus par les comportements des institutions d'épargne. Mm-hmm. La Caisse Générale d'Épargne, la Cadeco à l'époque, beaucoup de Congolais sont allés vers la Cadeco, mais par la suite ils étaient déçus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre message, qu'est-ce que vous amenez comme message par rapport à ce que les gens ont vécu pour qu'ils changent de comportement?
Moi je pense que les gens doivent comprendre que les choses ont changé sur le plan mondial. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Il y a eu même des problèmes pareils sont arrivés dans des pays développés. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple des coopératives de deuxième génération dont fait partie la Mecreco. Ce sont des coopératives qui font confiance, qui ont pignon sur rue, il y a des bâtiments visibles, du personnel bien formé, les procédures bien rodées, les systèmes de contrôle en place. C'est des institutions auxquelles on peut faire vraiment confiance. Et donc, lorsque nous nous présentons aujourd'hui, ce n'est pas pour appeler des gens qui ne trouveront pas où aller, effectivement, épargner et prendre les crédits. C'est des gens qui sont pris en charge convenablement de manière professionnelle. Et donc, nous demandons aux gens de nous mettre à l'épreuve, de venir chez nous, parce que la COPEC a une caractéristique, c'est que c'est lui qui vient et qui adhère, et il devient copropriétaire. Et donc ici, nous demandons aux Quinois de venir parce que il y en a déjà beaucoup à Kinshasa. Dans l'ensemble, Mecreco, c'est plus de 130 000 membres. S'ils viennent aussi devenir copropriétaires de ces structures, eh bien, ils vont se rendre compte qu'ils auront droit au chapitre, qu'ils auront la possibilité de donner leur point de vue et qu'ils vont non seulement épargner, mais ils vont aussi avoir accès au crédit.
J'espère que la centaine de ces clients, de centaines de milliers de clients de la COPEC ne sont seulement pas à Kinshasa, parce que la Mecreco, ce n'est pas seulement à Kinshasa.
Pourquoi
la campagne seulement à Kinshasa?
La campagne commence par Kinshasa, après on va faire le Bas-Congo, et puis on va faire la province orientale, et c'est là où nous sommes. Nous sommes aussi au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Maniema. Nous sommes actuellement dans 6 provinces de notre pays, et nous avons l'intention de couvrir l'ensemble du pays. Et donc, cette campagne commence ici à Kinshasa, mais elle va s'étendre sur l'ensemble du pays parce que nous voulons aller partout.
Nous dirons un mot sur cela à la fin de cette émission. Le temps d'aborder ce deuxième dossier de la semaine, un atelier national pour améliorer l'efficacité et la rentabilité des services mobilisateurs de recettes de l'État. Il vise également à assainir l'environnement fiscal des entreprises, lutter contre les fraudes fiscales et douanières. Ces assises prévues pour durer 3 jours se clôturent aujourd'hui à Kinshasa. Elles sont organisées par le ministère du Budget. Elles réunissent les régies financières, la Fédération des entreprises du Congo, la société civile et le monde scientifique. Selon le vice-premier ministre et ministre du Budget, les participants devront, au terme de ce forum, proposer des stratégies pour canaliser correctement toutes les recettes au trésor public. Des propos de Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du Budget, sont ici sélectionnés par Paul Matendo.
Le but de ces assises n'est pas de fiscaliser davantage l'économie nationale, mais de proposer des stratégies de récupération des recettes qui auraient dû entrer dans les caisses du Trésor et qui ne le sont pas encore aujourd'hui. Le gouvernement tient en effet à mettre en place un système fiscal simple et transparent qui poussera tous les agents économiques à s'acquitter de leurs obligations financières envers l'État, qui découragera la fraude et l'évasion fiscale, qui incitera toutes les couches de la société ainsi que les agents commis aux impôts et taxes à plus de civisme fiscal et d'intégrité, qui réduira la corruption, limitera les régimes préférentiels et les exonérations inutiles et assurera la promotion de la coopération entre les administrations fiscales.
Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget. Monsieur Deo Katulanyan, vous commentez l'actualité de la semaine avec nous. Un atelier pour renforcer la rentabilité des services percepteurs des recettes de l'État.
Je pense que c'est une très bonne chose. Ils ont dit qu'ils vont essayer de trouver des stratégies pour améliorer la traçabilité.
Ils ne vont pas fiscaliser davantage, mais ils vont, avec le moyen déjà en place, renforcer la capacité.
Voilà, ils vont renforcer la capacité. Ça signifie qu'il faut envisager ici toute la planification, donc les besoins. Hein, donc, qu'est-ce qui est prévu comme recette à récupérer, le potentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a réellement récupérer, c'est ça la grande question. Et moi, j'ai dit que dans notre pays, effectivement, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de règles, de la loi, même le Premier ministre l'a dit, mais on constate que tous ces textes-là ne sont pas souvent suivis, oui. N'est-ce pas, des faits. Et j'ai constaté que le gros problème qui gangrène notre pays, c'est qu'il n'y a pas une véritable culture de contrôle. N'est-ce pas, qui se termine par une sanction sur ceux qui ont fauté, ceux qui ont commis des fautes graves. Et donc moi, je voudrais dire, s'ils peuvent m'écouter, donc je donnerai un conseil, c'est en plus des stratégies qu'on va émettre, en plus de l'amélioration des opérations pour qu'effectivement tout l'argent récolté, l'argent qu'on devait récolter puisse être acheminé réellement dans un compte en banque, parce qu'en fait il ne faudrait plus aller en dehors des banques pour assurer la traçabilité. Il faut aussi installer un véritable système de contrôle, un système de contrôle interne et externe qui permette à ce que à quel que soit le niveau où on se trouve, qu'on soit capable de s'auto-évaluer, qu'on accepte de s'auto-contrôler, qu'on accepte le contrôle de sa hiérarchie, qu'on puisse contrôler soi-même le collègue, et qu'il y ait en place un système de gestion des risques qui permette à ce que l'État soit au courant de qui a triché, qui a bien fait son travail, qu'on puisse détecter les fraudes, n'est-ce pas, et qu'on puisse détecter les fraudes, qu'on puisse sanctionner ceux qui ont fraudé, mais qu'on puisse aussi faire de la prévention, qu'on s'assure que les règles qui sont mises en place empêcheraient même le plus grand fraudeur qui voulait le faire. Les règles sont mises en œuvre pour que effectivement on détermine à l'avance ce qu'il faut faire, qu'on puisse identifier clairement, mettre en place les mécanismes pour la prévention, des mécanismes pour la détection des fraudes, et qu'on puisse sanctionner ceux qui auront triché.
Il a fallu attendre que la RDC soit suspendue du processus ITE pour mettre le dossier des 88 millions de dollars qui ont disparu, que la DGRA ne savait pas retracer. Et cette semaine, nous avons appris l'ITE qui nous disait que une bonne partie de cette somme a été récupérée et que la DGRA n'a qu'à justifier 37 millions qui ne sont pas encore tracés. Vous voyez que c'est ça qui justement qui revient à dire qu'il faut mettre en place des mécanismes de prévention, de détection et même de sanctions, de contrôle et sanctions qui doivent suivre. Monsieur Deo Katulanyan, nous vous gardons et nous abordons le troisième sujet de la semaine. La durée de création d'entreprises en RDC passe de 5 mois à seulement 3 jours. Le guichet unique de création d'entreprises, organe chargé de faciliter la création d'entreprises en RDC, est mis en place par le gouvernement depuis le 25 avril dernier. Grâce à ce service, la durée du processus de création, nous l'avons dit, passe de 5 mois à 3 jours et le nombre de procédures de 13 à 3 seulement, ce qui constitue, selon le directeur général de ce service public, un pas de plus vers l'amélioration de l'environnement des affaires au Congo. Freddy Amissi l'a dit au micro de Agathe Pona Elema.
Avec les guichets uniques donc, une entreprise est désormais créée dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 jours maximum. C'est une véritable amélioration du climat d'investissement dans notre pays.
Comment concrètement fonctionne le guichet unique? Je suis un entrepreneur, je veux ouvrir une entreprise. Qu'est-ce que je dois faire?
Vous vous adressez au guichet unique et vous apportez donc votre dossier. Dès la réception déjà, on vous montre les éléments constitutifs de votre dossier. Votre dossier, il est complet, vous le remettez à la réception et on va vous appeler ou vous revenez le troisième jour et vous avez donc tous les papiers. Alors, on va seulement vous demander de pouvoir payer les frais. On va faire une note par les agents de la DGRAD qui sont également incorporé au guichet unique et vous allez faire les paiements et vous revenez. Et à propos de ces frais, le gouvernement a fait un grand effort en réduisant très sensiblement les frais relatifs à la création d'entreprises dans notre pays. Et puisque ces frais-là sont passés il n'y a pas longtemps de 3 000 à 850 et aujourd'hui on en est à 120 $ pour toutes les formalités. Et pour une SARL, SARL c'est un peu l'équivalent de SPRL qu'on avait auparavant. Donc, c'est la forme la plus usitée des entreprises dans notre pays.
Tous les investisseurs qui veulent venir ouvrir des entreprises au Congo doivent obligatoirement passer par le guichet unique.
Oui, effectivement. Il n'y a plus une autre voie pour pouvoir créer une entreprise. C'est en cela que ça s'appelle le guichet unique. Donc, c'est le passage obligé. Il faut nécessairement passer par le guichet unique. Pourquoi? Par exemple, au niveau du guichet unique, nous avons les greffes d'immatriculation. Mais vous ne pouvez pas avoir un autre greffe d'immatriculation si ce n'est ici. Donc, c'est le seul centre, n'est-ce pas, d'accomplissement de toutes les formalités requises conformément à la loi, donc, pour créer son entreprise.
Là, le guichet unique n'est représenté qu'à Kinshasa, n'est-ce pas là un problème?
Dans le texte qui crée donc le guichet unique, il est prévu que le guichet unique doit pouvoir se déployer dans toutes les provinces et c'est un processus qui va pouvoir se poursuivre. Après donc Kinshasa, on va progressivement installer des antennes ou des bureaux dans toutes les provinces et la loi dit dans toutes les juridictions des tribunaux de commerce, il doit y avoir, n'est-ce pas, un guichet unique de création d'entreprise. Mais en attendant, la loi dit que partout dans les ressorts donc de tribunaux de commerce, eh bien, il doit fonctionner également comme les guichets uniques.
Monsieur Deo, apparemment, n'a eu que de bonnes nouvelles cette semaine. Encore une nouvelle. De 5 mois, la création d'entreprise ne va durer que 3 jours en RDC.
C'est une très très bonne nouvelle. C'est une grande nouvelle au Congo parce que vous savez que la micro, la petite et la moyenne entreprise constituent vraiment le moteur de développement dans un pays. Et ici au Congo, il était très difficile de créer une entreprise. Mais ça ne fait que le premier pas, comme ils viennent de le dire eux-mêmes. Mm-hmm. Pour vraiment reconnaître une liberté d'entreprise à l'entreprise, n'est-ce pas? Il faut simplifier au maximum les procédures de création d'entreprise. Il faut garantir la stabilité des dispositifs réglementaires, le système fiscal, le régime douanier, le régime juridique, favoriser l'accès au crédit. Donc, il y a toute une série de choses qu'il faut faire pour que l'entreprise puisse vraiment œuvrer librement. Je n'ai même pas encore parlé ici des tracatés séries administratives que nous connaissons nous tous. On peut bien créer une entreprise, mais si le lendemain, il y a 5 services qui débarquent pour tracasser l'entreprise, ben, elle va fermer. Oui. Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup d'entreprises dans les formels? Les micro-entreprises, les petites entreprises qui sont dans les formels. C'est tout simplement parce que il y a des tracasseries administratives. Mm-hmm. Donc, bravo, c'est un pas des géants. On vient de simplifier les procédures de création de l'entreprise au Congo. Nous devons applaudir, mais il faut continuer. il y a du travail que le gouvernement doit encore faire, mm-hmm. et nous lui demandons, en tout cas nous l'encourageons, nous félicitons notre gouvernement, il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur des mesures, mesures comme celle-là.
Ouais. Si le gouvernement congolais a déjà décidé de concéder les frais qui sont passés de 3 000, comme le disait le patron du guichet unique, de 3 000 à 850 dollars, et puis aujourd'hui, ça va coûter que 120 dollars, je pense que cela ne l'empêcherait pas de prendre des mesures encore trop courageuses, comme vous le dites là, pour améliorer davantage l'environnement des affaires en RDC.
C'est pour ça que nous encourageons le gouvernement. Nous, société civile, nous sommes derrière le gouvernement lorsque on prend des décisions comme celle-ci. Mais ce n'est que le début de bonnes décisions, mm-hmm. n'est-ce pas? Il faut aller jusqu'au bout.
Il ne faut pas que l'enfant naisse et après il n'a pas de quoi se protéger.
Voilà, c'est ça.
Donc, il faut des t-shirts.
Et voilà.
Il faut
l'encadrement.
Il faut l'encadrer.
N'est-ce pas? Il faut que, par exemple, le ministère des petites et moyennes entreprises, qu'on lui donne le moyen de fonctionner. Ce ministère, il est abandonné à lui-même, alors que c'est un ministère, l'un des ministères les plus importants du pays. Parce que, je venais de dire, la petite et la moyenne entreprise, c'est le moteur même du développement dans un pays. Et donc, il y a encore des choses à faire.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En plus bref, le reste de l'actualité économique de la semaine, lancement cette semaine de travaux de réhabilitation de la route Kayuyu-Kampene dans la province du Maniema. C'est une route de désert agricole qui relie deux localités, l'une réputée le plus grand centre minier de l'or et de la cassitérite et l'autre fournisseur de produits agricoles. Les travaux qui s'effectuent grâce à un financement du BCECO prendront 4 mois. Au sud Kivu, territoire de Kabaré, près de 400 fonctionnaires du Centre de recherche en sciences naturelles étaient dans la rue ce lundi. Ils ont déclenché un mouvement de grève depuis mercredi de la semaine dernière pour demander aux autorités de diligenter une enquête sur le détournement de fonds alloués aux fonctionnaires et à la paye des agents de cette institution étatique. Certains fonctionnaires qui pointent du doigt le conseil de gestion l'accusent d'entretenir des listes des agents fictifs. Allégation refutée par le directeur du centre qui évoque, lui, une manipulation des agents. La société minière Ashanti Anglo Gold Kilo a annoncé ce jeudi à Bunia la suspension de son projet de construction d'une mine dans la concession 40. L'annonce a été faite par un cadre de cette entreprise lors d'une réunion de mise au point avec différentes autorités civiles et militaires de l'Ituri. AGK justifie cette mesure par le manque de financement suite à la crise socio-économique qui a frappé certains de ses partenaires sud-africains. Du coup, elle cède certains de ses engins lourds à Kibali Gold Mines, une autre entreprise dont le siège se trouve à Durba en province orientale. La DGRA de Bas-Congo a réalisé près de 19 milliards de francs congolais en 2012. Le directeur provincial de cette régie dans la province du Bas-Congo l'a annoncé lundi lors de l'inauguration du nouveau bâtiment rénové de la DGRA à Matadi. Un chiffre supérieur aux recettes de 2011 certainement pour Eddy Bitalo, c'est grâce au soutien de la direction générale de la DGRA et de l'implication des agents que la direction provinciale a pu réaliser ses performances. Rendons-nous à Congolo dans le nord Katanga pour parler de la flambée des prix des produits agricoles et en l'occurrence celui du maïs. Une bassine qui se vendait à 2500 francs congolais il y a quelques jours se vend aujourd'hui à 4500 francs congolais. L'exploitation du site minier artisanal d'or de Moussébé serait en grande partie la cause de cette situation car ce site minier est devenu une véritable plaque tournante des activités commerciales dans la région. Voilà tout pour la ronde des provinces. Monsieur Déo, quelque chose a retenu votre attention dans cette série? Pas du tout, on passe à autre chose.
Panorama économique, reportage.
Plusieurs tonnes de marchandises à destination de la ville de Mbujimayi sont bloquées au port de Lusambo. La route reliant Mbujimayi à cette cité, environ 230 km, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les responsables des sociétés qui reçoivent leurs biens par cette voie s'inquiètent du manque à gagner en cas d'éventuelle détérioration de leurs marchandises. Emmanuel Elamegi pour plus de détails.
Il s'agit de plus de 7000 tonnes de marchandises qui sont bloquées au port de Lusambo depuis bientôt un mois. Elles y sont acheminées par plus de 5 bateaux en provenance de Kinshasa. Ces marchandises appartiennent à des entreprises commerciales œuvrant dans la ville de Mbujimayi. Les responsables de ces entreprises affirment que la route Mbujimayi-Lusambo, longue de 230 km, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des dizaines de camions remorques qui ont quitté Lusambo depuis deux semaines sont bloqués à divers endroits pour cette cause. Les camionneurs qui empruntent cette voie disent enregistrer d'importantes pertes en carburant pour parcourir les sables et les érosions. Pour leur part, les sociétés commerciales s'inquiètent que leurs marchandises se détériorent avec tout le temps qu'elles passent sous le soleil et des intempéries. Au gouvernement provincial, l'on reconnaît l'importance de la route Mbujimayi-Lusambo et l'on rassure que les travaux de réhabilitation seront bientôt lancés avec l'appui de la coopération technique belge. Emmanuel Elamejo Kabedi, Mbujimayi, Radio Kapi.
Emmanuel, bon week-end à toi et à tous ceux qui nous écoutent à Mbujimayi. Nous arrivons à la fin de Panorama économique, mais nous allons rappeler avec notre invité aujourd'hui qui a commenté l'actualité, M. Deo Katulanya, PCA de la Mecreco. Nous avons parlé de la Banque centrale qui a lancé la centrale de risque. C'était une très bonne chose parce qu'on va gérer toutes les informations des opérations qui se passent dans les banques et dans les institutions de microfinance. Nous avons également parlé du ministre de budget qui organise à Kinshasa un atelier national pour renforcer les services de recettes de l'État et aussi le délai de la création d'entreprises qui passe de 5 mois seulement 3 jours à Kinshasa. Et c'est sur ces 3 points que nous allons donner pour la dernière fois la parole à notre invité pour nous dire son mot de la fin.
Bon, donc je voulais dire tout simplement que c'est la centrale des risques, c'est une très bonne chose sur le crédit, mais je voulais insister sur le fait qu'actuellement la Mecreco, nous sommes en campagne dans la ville de Kinshasa pour demander à la population kinoise de venir nombreuse, n'est-ce pas, adhérer à la Mecreco. Nous sommes prêts, nous avons préparé tout ce qu'il faut pour que les gens viennent adhérer et quand ils vont arriver, ils vont se rendre compte qu'ils ont été bien attendus. Ici, je voulais insister sur l'épargne à terme, notamment le fait que chez nous à Mecreco, lorsque vous épargnez votre argent, vous pouvez gagner 12% l'an. Nous sommes parmi les rares qui le font.
Il y a des gens qui fuient, par exemple, les institutions bancaires en général et aussi les institutions de microfinance parce que ça demande beaucoup d'argent. Quand on vient chez Mecreco, comment ça se passe? On ouvre un compte, on paye rien.
Donc, on ouvre un compte pratiquement gratuitement.
Et quand le compte est créé, on doit le gérer?
On doit les gérer.
Et les frais de tenue de compte?
Il n'y a pas de frais de tenue de compte. Par contre, lorsqu'on voudrait avoir un crédit à ce moment-là, on est obligé de s'inscrire comme membre, n'est-ce pas? Mais donc, je demande vraiment aux gens de venir nombreux. Il y a des gens qui sont sur le terrain pour vous rencontrer et vous convaincre de venir à la Mecreco. La Mecreco, c'est ensemble pour réussir avec la population quinoise.
Vous avez dit que vous avez plus de 100 000 membres.
Oui, maintenant on a plus de 150 000.
Et en termes de ressources, votre capital par exemple aujourd'hui?
Nous avons une épargne de plus de 30 millions de dollars. Nous avons 22 millions de dollars dans les crédits. Et au moment où nous parlons là, donc il y a à peu près autour de 25 000 personnes qui ont le crédit de Mecreco. Ça signifie, ce qui place la Mecreco parmi les véritables industries de crédit dans notre pays.
Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer le panorama économique de cette semaine. Sinon, monsieur Deo Katulanya, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et le plaisir sera pour nous de vous retrouver dans ces studios pour analyser l'actualité économique de la semaine.
Merci, merci. Eh bien, je vous invite aussi à devenir membre de Mekreko.
On le fera, bien entendu. Et à vous, chers auditeurs, merci. Merci de votre temps. Merci de votre fidélité à Panorama Économique et à Radio Okapi. Il est 13h à Mobaye Mbongo en ce moment et vous écoutez la Radio Okapi. Très bonne suite de programmes sur votre radio. Rendez-vous lundi 18h15, heure de Kinshasa, dans Écho d'économie.